Atelier avec l'artiste Stéphane Pancréache. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins. La voix des artistes se soulève et fait naître des images.
L'atelier forme un espèce de chaos organisé. C'est la possibilité de prélever des idées en permanence, parce que ça crée des correspondances, ça crée tout d'un coup des conjonctions, des interactions qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc c'est une espèce de chaos mouvant comme ça, qui est le, en tout cas dans mon cas, qui est un gros support de création, quoi.
Matière hétéroclite, de sculpture, de peinture, d'objets rêvés ou fétichisés. On y sent l'artiste au travail, mais aussi l'artiste en réflexion. On y ressent la pensée qui s'évade, se construit et se déconstruit. Il y a même un incroyable fauteuil ingénieusement rattaché à un ordinateur, cockpit de simulation, drôle de station cyborg pour jouer aux jeux vidéo comme si on partait dans l'espace. Dans ce microcosme, Dieu de croyances anciennes et Dieu de technologies modernes semblent se côtoyer. Peintre des mythes, de rouge, d'or et de noir, ces peintures expriment avec fulgurance nos démons et nos addictions, entremêlant avec panache et sensualité le clair-obscur de Caravage et les compositions de Bacon. Passé par la galerie Beaubourg de Marianne et Pierre Naon, par la galerie Anne de Villepoix et représenté depuis plusieurs années par la galerie Valois, il a notamment été exposé au MAMAC de Nice, à la Fondation MAG, à l'Institut du Monde Arabe ou encore au Centre d'Art et au musée Unterlinden de Colmar. Plusieurs de ses œuvres ont intégré des collections publiques et privées, ainsi que l'espace public comme le métro de Nice. Qu'est-ce que la peinture d'histoire ? L'art a-t-il une fonction ? Le regard intransigeant de l'artiste sur la liberté d'expression revient sur les années 90 et la création, sur la question de la peinture aujourd'hui. Petit à petit, la fougue des pinceaux se fait plus sereine. Les dernières œuvres reflètent moins l'urgence que la profondeur des émotions.
Est-ce que pour vous, ce sont des objets que vous voyez tous les jours et qui vous inspirent, par exemple ?
Bien sûr, je vis avec tous les jours, je les organise, je m'en occupe un peu comme un animiste s'occupe de ces objets. Ils ont tous pour moi une histoire, une signification. Il y en a beaucoup qui sont juste en transit, d'autres qui vont rester là. Certains sont des sculptures, d'autres sont juste des pièces rapportées, même des choses que j'ai collectées à droite à gauche. Quand Picasso, on voyait les ateliers de Picasso, il avait toujours, par exemple, dans ces différents ateliers, un endroit qui est une espèce de bordel, une espèce de décharge d'objets collectés ou amoncelés, etc. Et dedans, il allait puiser des choses. Et c'est vraiment ça, un atelier.
Derrière moi, sur le mur, il y a des œuvres plus récentes que d'autres, qui sont presque en train de sécher, j'allais dire.
Ouais.
On voit la brillance des glacis.
Ouais.
C'est assez beau, ça.
Oui, parce que les derniers tableaux reprennent des techniques assez anciennes, par multiples couches, glacis, etc. Parce que j'avais envie aussi de modifier ma technique picturale. C'est très intéressant à faire, et évidemment ça amène des idées, puisque changer la manière qu'on a de pratiquer techniquement quelque chose change aussi cette chose, évidemment. Ça semble être évident, mais dans la peinture, c'est très opérant. Ce sont des tableaux qui sont moins violents aussi que ce que j'ai pu faire.
Vous disiez une remise en question aussi de la manière de faire la peinture. Est-ce que c'est une remise en question plus personnelle aussi ?
Ouais, je pense que la décision qui m'a poussé à ralentir ma production, à changer ma manière de peindre, c'est lié à des changements dans ma vie, évidemment, au fait de regarder ce qu'on a fait, enfin un peu des formes de bilan qu'on peut tous avoir, quoi. C'est pas un rejet de ce qui a précédé, c'est plus l'idée que j'avais probablement fait tout ce que j'avais à faire avec mes moyens précédents et que j'avais envie de les renouveler pour recommencer une histoire, quoi.
Alors justement, quand vous étiez plus jeune, au tout début, quand vous avez commencé la peinture, c'était quoi le désir de peindre? Il vient d'où?
C'était pulsionnel, c'était le désir absolu de rentrer héroïquement dans l'histoire de la peinture au sabre au clair. Et donc, avec violence, aussi bien dans ma manière d'investir le champ de l'art, de l'art contemporain, enfin de ce milieu, que dans la forme que j'avais donnée au tableau. Qui montrait de manière très expressionniste, assez violente, des choses elles-mêmes violentes. Ouais.
Un désir pulsionnel, et du coup, est-ce que finalement la réception de vos œuvres a été rapidement repérée? Comment vous êtes rentré dans ce milieu de l'art qui peut paraître peut-être un jeune artiste un peu fermé? C'était dans des années...
Là, on parle des années 90, ouais, 96, 97, par là. Non, mais moi, j'y suis rentré par effraction. D'abord parce que je pense que si j'étais pas entré par effraction, on ne m'aurait pas laissé rentrer. Et que même après y avoir été entré par effraction, on m'a plutôt toléré que fait sentir que j'y étais le bienvenu. Et c'est pas simplement valable pour moi, ça, c'était valable pour cette génération, ma génération qui faisait de la peinture. Donc c'était un combat assez qui paraît aujourd'hui un peu désuet parce que la peinture est partout et que c'est plus un débat.
Mais plus de peinture aujourd'hui.
Ouais, il y a beaucoup plus de peinture, il y a beaucoup plus de gens qui s'autorisent à en faire et il y a beaucoup moins de bloqueurs par rapport à ce médium. Alors que moi, j'ai des souvenirs très précis de gens décisionnaires, entre guillemets, dans ce champ de l'art contemporain qui m'avaient fortement conseillé de faire autre chose. C'était dommage de perdre mon temps dans un médium qui avait fait son temps.
Vous n'avez jamais pensé à faire autre chose?
Ah non, moi, j'ai jamais cédé aux injonctions extérieures, je m'en fous complètement. Mais toute cette histoire est derrière. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça en est plus... Et autant mieux.
Vous avez employé le terme de fatwa, qui est très fort.
Ouais.
C'est, j'imagine, un sentiment aussi assez profond, le sentiment que la peinture a été quand même la dernière roue du carrosse à un moment donné.
C'était vrai. C'est une histoire étrange parce qu'elle est vraie que pour la France. C'est-à-dire que c'est une singularité absolument française. Mais les historiens futurs se feront un plaisir de décrire cette période dont on a plein de témoignages, d'écrits, très violents. Je ne citerai pas ici tous les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs artistes ou commissaires d'expo ou intellectuels qui ont écrit des pages et des pages de détestation et sur la peinture. Et ce que je suis en train de dire peut sembler complètement aberrant, mais pourtant c'est vraiment le cas, et les peintres de ma génération et de la génération précédente, que je connais bien aussi, peuvent en témoigner. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de très très dur qui d'ailleurs a conduit à ce simple constat qui est que aussi bien l'Allemagne que l'Angleterre que les États-Unis ont continué à mettre de la peinture sur orbite alors que la France, elle, n'a absolument rien fait. Et ça n'a pas été défendu. Et on a des artistes d'une immense qualité qui sont aujourd'hui inconnus à l'étranger et qui valent 100 fois moins cher que d'autres. C'est la conséquence de cette pensée. Finalement, je pense maintenant, plus j'y pense, rétrospectivement, je pense que la peinture a été, pour ce pays, dans le monde culturel, un objet contraphobique. C'est-à-dire qu'elle a cristallisé... l'idée de déchéance, l'idée d'avoir raté le coche, la peinture, c'était sa faute. Donc on l'a déportée.
Voilà. Oui, c'est effectivement assez...
Ouais, mais c'est ça.
Violent de dire ça.
Bah ouais.
Et...
Voilà, on est peintre. Ah, c'est un peintre. Voilà. Ah, vous êtes peintre. Vous en vivez? Bah oui. Non, cette violence-là, elle est réelle. Elle était réelle.
Aujourd'hui, vous êtes plus serein?
Ben moi, j'ai toujours été relativement serein. Je veux dire, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours réussi malgré tout à le montrer. La seule chose que je pourrais regretter de cette époque-là, c'est de ne pas avoir eu, comme d'autres, les soutiens qui auraient permis de rayonner encore davantage. Mais comme l'histoire n'est pas finie et que maintenant s'engage une nouvelle période, je suis très confiant. Il y a vraiment l'émergence d'une scène picturale française très riche, qui prend au moins 3 générations et qui devrait faire l'objet, qui devrait vraiment faire l'objet d'une monstration sérieuse. Une scène d'une qualité qui n'avait pas, qui n'est pas existé probablement depuis l'après-guerre en termes de peinture figurative. Je pense qu'il y a une occasion pas encore tout à fait perdue. Il ne faudrait pas tarder à passer à l'acte pour les institutions pour sanctionner tout ça et le montrer au grand public.
Quelques noms à apprécier, à regarder, une liste peut-être pas exhaustive, mais bien remplie.
Donc c'est un peu comme ça mon univers et des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail en ce moment. Évidemment, j'oublie probablement des gens. Et je suis toujours très proche d'aînés en peinture, comme Jamel Tata ou Marc Desgrandchamps, ou Michel Gouéry, etc. Et sur la jeune génération, il y a énormément de peintres, hommes ou femmes, dont je regarde le travail. Des gens comme Nazanine Pouyandet, Raphaël Ricol, Simon Pasieka, Adrien Belgrand, Thomas Lévilaine, Marcos Carrasquer, qui est pour moi un immense artiste qui n'est pas assez regardé, Axel Pallavi, Davor Vranckx, qui est un dessinateur absolument extraordinaire. Tous ces gens font un travail complètement original. Je pourrais citer aussi Romain Bernini, Marion Bataillard, Mathieu Cherkite, qui d'ailleurs vient d'organiser une exposition qui montre un peu cette scène, Maud Maris, à l'heure actuelle un artiste que j'aime énormément et qui est en train de beaucoup marcher, qui s'appelle Jean Clarac. J'ai aussi un peintre que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Abel Pradalier, qui reste assez discret, mais qui est pour moi un très très bon artiste.
Alors avec ces nouvelles peintures sur lesquelles vous travaillez, qui sont, vous l'avez dit au début de l'interview, un petit peu différentes, une pratique différente, est-ce que les sujets aussi sont différents?
J'aimerais plutôt parler de sens que de sujet. C'est-à-dire que je pense que le sens reste le même, mais que ça s'exprime de manière différente.
Et
Mais
le sens, c'est lequel chez vous?
ça a toujours été de peindre nos affects, finalement, l'homme, la femme, tout ce qui nous fonde, tout ce qui crée notre interaction, tout ce que d'ailleurs la psychanalyse décrit parfaitement, c'est-à-dire vraiment nos artefacts basiques autour desquels on gravite et autour desquels on se débat en permanence.
L'actualité aussi, vous avez une attention particulière à ce qui se passe et parfois l'envie de peindre sur un sujet d'actualité assez tragique et violent d'ailleurs, que ce soit sur par exemple la peinture d'un petit garçon migrant ou que ce soit sur l'attentat de Charlie Hebdo.
Et ça s'est produit en fait avec les révolutions arabes. Parce que quand tout d'un coup, étant spectateur de ça comme le monde entier, j'avais devant moi, il y avait pour moi quelque chose d'énorme qui était en train de se passer, dont j'étais le spectateur contemporain. Et ça m'a fait basculer dans une logique de peinture d'histoire. Et à ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore qui est gigantesque, où on doit se confronter à beaucoup de choses, et pas seulement à l'histoire, mais aussi à l'histoire de l'histoire. Et à l'histoire de la peinture d'histoire, etc., etc. Et donc, en rentrant là-dedans, c'était à la fois. Moi, j'ai ressenti ça, et ça s'est vérifié d'autant plus après, quand il y a eu les attentats, comme c'était impérieux, c'était une nécessité de le faire. Et après, il fallait trouver les moyens. Mais finalement, je me suis rendu compte à ce moment-là que ça rejoignait énorme. C'était dans le droit fil de ce que j'avais toujours fait, sauf que là, c'était sur des choses précises.
Et les peintures de la grande histoire, c'est ça, c'était quelque chose de qui vous fascine aussi dans l'histoire de la peinture.
Ouais, parce que en fait, évidemment, il y a plein de peintures d'histoire qu'on connaît, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi plein de choses qu'on ne met pas dans la case peinture d'histoire, mais qui en sont. Je me rappelle, j'ai un exemple très précis, même sur la peinture contemporaine, quand Richter fait sa suite de peinture sur la bande à Baader, etc. À aucun moment ça a été appelé peinture d'histoire. Mais c'est de la peinture d'histoire.
C'est un terme qui a un petit peu disparu. On parle de la peinture d'histoire jusqu'au 19e siècle.
Ouais, mais ça fait partie des choses que la modernité a voulu jeter avec l'eau du bain. Mais en même temps, Guernica, c'est une peinture d'histoire. Ce qui est intéressant avec la peinture d'histoire, c'est que vous êtes confronté à un problème fondamental, c'est-à-dire que votre peinture d'histoire ne pourra avoir d'intérêt que si elle-même devient un morceau d'histoire. Donc il y a une espèce de serpent qui se mord la queue. Puisqu'aujourd'hui, Guernica, et d'ailleurs une peinture d'histoire finit par prendre la place de l'événement. C'est ça qui est absolument fascinant. Aujourd'hui, Guernica, pour nous, c'est un tableau de Picasso.
C'est aussi une volonté de le fait de peindre une peinture d'histoire. Derrière, il y a cette ambition de témoigner, bien sûr, de témoigner d'une tragédie, par exemple. Mais aussi, finalement, pour un peintre, il s'engage.
Oui, alors ça, c'est un débat que j'ai. Enfin, j'ai des positionnements partagés par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je me suis. En fait, voilà, je me suis toujours extrêmement méfié de ce qu'on appelle l'engagement, parce que j'ai fait aussi un peu d'histoire, et que je sais très bien que les plus engagés sont souvent les pires. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas au point brandi qui prétend. Clamer qu'il est engagé pour obtenir quoi en définitive? Ça voudrait dire que je les ai faits pour moi ces tableaux? Je ne les fais pas pour moi ces tableaux. Je fais des tableaux pour qu'ils soient vus. Donc je ne crois pas à l'engagement. Je crois à l'homme qui réagit. Je crois que quelqu'un. Vous savez, voilà, on va dire ça d'une autre manière. Si quelqu'un tombe dans la rue et vous approchez de lui pour l'aider à se relever, c'est pas de l'engagement. C'est de la nature humaine. Ben, c'est du même ordre pour moi. Et c'est pour ça que je ne supporte pas les œuvres d'art, et ça c'est Baselitz qui en parle, qui se gargarisent avec des titres magnifiques d'être engagés sur tel sujet et qui font un grand monochrome noir. Bon.
Votre exposition Œuvres monumentales à l'Institut du monde arabe exposait une série de pièces, peintures et sculptures réalisées entre 2012 et 2015. C'était des très grands formats projetant sous nos yeux l'histoire des printemps arabes. L'histoire en train de se faire, une histoire qu'on est toujours d'ailleurs en train de vivre dans ses continuités, élan de révolution mêlé à l'horreur, à la violence des guerres et des attentats. Dans le catalogue de cette exposition, plusieurs citations, dont une du peintre et théoricien de la Renaissance, Léon Battista Alberti. Donc c'est une citation que vous avez choisi d'insérer dans ce catalogue. Léon Battista Alberti disait ceci, donc je cite: D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi, en vérité, comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. Alors Stéphane, voici ma question. Est-ce que vous procédez comme Alberti au moment de commencer une peinture?
J'avais choisi cette citation parce que, indépendamment du fait qu'elle ait une définition géniale de la peinture, il y avait le mot histoire dedans qui pouvait s'entendre de plein de manières, et comme le travail que je faisais à ce moment-là était littéralement un travail d'histoire sur l'histoire avec un grand H, je trouvais que c'était intéressant de le signaler. Et c'est valable, en fait, ça m'a même amené à une réflexion en inversant la proposition, qui est que, enfin, en l'inversant, en tout cas, en envoyant une autre manière de le lire, c'est que je pense que tout tableau est une peinture d'histoire. Ça peut être une peinture d'histoire microscopique, de la micro-histoire, de la micro-fiction, etc. Mais ça participe de l'histoire de toute façon. Donc c'est un peu une tautologie de dire ça. Et dernière chose que j'ajouterais moi à la proposition d'Alberti, c'est qu'en fait, enfin quoi que non, finalement il le dit puisqu'il parle de fenêtre. Et moi je le traduis depuis toujours, depuis que je peins, j'ai toujours quand j'ai face à moi une toile, la plupart du temps blanche, j'ai toujours vu un espèce de couloir, c'est-à-dire je ne vois pas une grille, je vois un espace infini que je peux combler, que je peux remplir avec ce que je veux. C'est la différence peut-être entre l'impositionnement d'Alberti, qui voit déjà une image derrière ce rectangle qu'on va inscrire et qui tend vers le paysage, qui serait comme un tour de magie. Et effectivement, on ouvre une fenêtre et on voit quelque chose. Et peut-être la vision plus moderne. Plus contemporaine, qui consiste à penser que c'est un espace gigantesque mais vide qu'il va s'agir de remplir.
Alors, c'était d'autant plus intéressant, important et fascinant, cette exposition, parce que il y avait beaucoup d'œuvres, dont une en particulier. Donc, l'exposition a eu lieu en juillet, à l'été 2015. Et il y avait justement votre œuvre intitulée 11 janvier 2015, qui représente l'attentat de Charlie Hebdo. Donc là, on est dans... Vous parliez de peinture d'histoire tout à l'heure. On est vraiment dans une histoire. On était vraiment dans une histoire en train de se faire. C'est-à-dire, c'était vraiment le présent, quoi.
Ouais,
c'est ça aussi, la force des images.
Ouais, puis ça a surgi, c'est-à-dire que j'ai ressenti ce que des artistes ressentent à certains moments, tout le monde d'ailleurs, mais une urgence, une pulsion émotionnelle. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais pas le choix, en fait. Mm. Il s'agissait de le peindre.
Parce que ce n'était pas qu'un tableau commémoratif.
Non, c'était le fait de le faire était commémoratif, mais finalement que pour moi. Mais le tableau lui-même voulait, en utilisant tous les codes de la peinture d'histoire et du statut de mémoriel, finalement, parce qu'il s'agit... Un tableau d'histoire, c'est quelque chose qu'il s'agit de faire passer de l'état de document à celui de monument. Il s'agissait véritablement de faire quelque chose pour que ce soit inscrit et légué. Mm.
Et comment il a été reçu, ce tableau, à l'époque ?
Il a été reçu de manière ambiguë. En fait, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est que Willem en a fait la chronique dans Charlie Hebdo. Willem, que je ne connais pas, hein, j'ai découvert ça parce qu'on me l'a signalé. Mais... Donc il y a des gens qui l'ont compris, je pense la majorité, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de visiteurs. Et puis certaines personnes pour qui il est resté problématique, je crois, encore aujourd'hui. Je pense que ça rentre dans la... Indépendamment des qualités picturales de l'œuvre ou pas, c'est pas à moi de débattre, on a parfaitement le droit de ne pas aimer le tableau en soi. Mais je pense que ce qui gênait, c'est le fait que ça mette sous nos yeux une réalité que, culturellement, disons, dans ce pays, on a plutôt l'habitude de vouloir mettre sous le tapis. Donc, l'objet traumatique sous les yeux pour guérir... Je pense que la catharsis est nécessaire pour guérir de tous les états. Et le cinéma, comme l'art ou la littérature, sont des objets cathartiques, provoquent aussi chez le spectateur que parfois un refus.
Et il est où aujourd'hui ce tableau ? Je rappelle, c'est un très grand format, c'est un triptyque hein, même.
Ce tableau, je veux en faire don à un musée en France et à Paris. Donc on verra ce qu'il en est.
Compte tenu des interrogations qui sont exprimées par l'époque, telles que les problématiques de genre, d'identité, la question raciale, post-coloniale, féministe, et aussi d'ailleurs le processus de relecture historique que ça entraîne, à tort ou à raison selon les cas, est-ce que vous pensez, Stéphane, que la position de l'artiste change ? En clair, est-ce que l'art doit avoir une fonction ?
Je pense qu'en fait, ce qui est en train de se passer, et que comme tous les artistes, je suis à la fois le spectateur et l'acteur, et je pense que c'est un processus assez dangereux, qu'on navigue actuellement sur une ligne de crête très fine entre ce que doit être l'art, depuis la modernité, c'est-à-dire un espace de liberté, et une demande... d'œuvres qui devraient refléter une morale, en tout cas la morale de l'époque, et qui du coup seraient censées, je me répète encore, mais répondre à la demande. Or, on a coutume de penser, et je pense profondément, que si on crée en pensant au spectateur, si on crée pour répondre à une demande, on est plutôt dans une logique de produit, voire de propagande dans le pire des cas, que dans une lecture, que dans une proposition de liberté. J'ajoute à ça qu'il y a un paradoxe étrange qui vient du fait que l'injonction d'être, si ce n'est engagé, mais en tout cas conscient des problématiques de l'époque et de devoir les refléter dans les œuvres, provient en bonne partie d'une élite, et là en l'occurrence pour les arts plastiques du milieu de l'art contemporain, qui lui-même s'est toujours pourtant posé en porte-drapeau de l'avant-garde. Et or, l'avant-garde, c'est ne justement pas aller dans le sens de la morale collective, ou en tout cas de ce que le public ou la pensée de l'époque peut attendre. C'est justement battre en brèche tout ça. En tout cas, elle a été posée telle qu'elle. Donc, il y a un espèce de nœud gordien, ça crée de la confusion, et beaucoup de choses qui en sortent actuellement me semblent pas aller dans un sens très intéressant d'un point de vue artistique, et contribuent, à mon avis, davantage à fracturer la société et à cliver les spectateurs, ou en tout cas même tout simplement nos démocraties, et on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. Et moi, je garde chevillé au corps, en tant qu'artiste, l'idée que la liberté ne tue personne. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de bien en étant libre en permanence et en usant de cette liberté, plutôt qu'en la restreignant, soi-disant, à son profit. Dire ça n'est pas invalider le fait que ces problématiques existent. Je pense qu'elles doivent être travaillées, et c'est le travail aussi des historiens, des consciences individuelles, de la sociologie, de l'ethnologie, de toutes les sciences humaines et de la politique. Et je pense que l'art n'a pas à se substituer à une pensée commune. L'art n'est pas quelque chose qui prophétise un lendemain glorieux. Et l'art n'a pas de projet politique. Or là, finalement, tout ce que vous m'avez décrit et dont vous faites le constat et qu'on fait tous, c'est un projet politique à l'intérieur duquel on peut s'inscrire en tant qu'individu, être d'accord, débattre, amener sa pierre à l'édifice en tant qu'être humain, intellectuel ou citoyen. Mais en tant qu'artiste, évidemment que par porosité, ce qu'on pense et ce qu'on chérit, évidemment, se transmet dans les œuvres. Ça n'est présent que comme une musique et comme une odeur qui est accolée à l'œuvre, mais pas comme son essence première.
Est-ce que ça signifie que ça risque, finalement, cette injonction dont vous parlez aujourd'hui, est-ce que ça risque de priver le public d'une diversité artistique?
Ah ben, c'est un des gros risques, parce que, évidemment, si les injonctions augmentent, si la pression devient plus forte, dans une espèce d'hystérie collective, on va avoir des processus de sélection, certains d'ailleurs sont déjà à l'ordre du jour, qui ne vont faire que s'intensifier. Et du coup, on va basculer, on va s'éloigner de ce qui constitue l'œuvre d'art pour regarder finalement celui qui l'a fait. D'ailleurs, il y a évidemment, avec tout ce qui se passe dans le domaine, par exemple notamment des mœurs, et qui éclabousse aussi bien le cinéma que l'art, que de tous les milieux, on voit bien que la question de la différence entre l'œuvre et l'homme se pose en permanence. Et le fait même qu'elle se pose est en soi un signe inquiétant. Il est évident que si on devait relire l'histoire de l'art en fonction du comportement individuel de tous les artistes dont on a des documents, sans compter ceux sur lesquels on n'a rien et dont on devrait supposer quel a été leur comportement en tant qu'être humain, il faudrait probablement détruire absolument tous nos musées. Donc, puisque chaque société peut à tout moment définir quelque chose comme mauvais, suivant l'époque ou le... Par contre, sur le tribunal des hommes, et non pas notre affect personnel, il n'y a aucune raison d'aller décrocher une œuvre parce que quelqu'un a commis... À ce titre-là, on devrait détruire les aquarelles d'Hitler. Bon, on ne le fait pas, elles existent. En plus, toute œuvre est aussi un objet historique, au-delà d'être une œuvre d'art. Donc, et toute société qui voudrait détruire une œuvre d'art, de toute façon, pour moi, est infondée. Ça n'est pas possible.
Alors, pour finir, Stéphane, une autre question. Je vais encore relever une petite citation, mais de vous cette fois, dans une interview, parce qu'en fait, c'est une phrase que je trouve très jolie. Vous dites « Là où l'image s'arrête, la peinture commence ». Alors c'est d'une part intéressant, je trouve, au regard de notre société actuelle, inondée d'images qu'on regarde rapidement, comme des flashs sur les réseaux sociaux, mais aussi c'est intéressant au regard de certaines peintures contemporaines qui justement atteignent des prix faramineux en mimant ces images qu'on voit un petit peu partout, sans grand intérêt d'ailleurs, et qui donc nous inondent. D'un autre côté, cette phrase, donc « Là où l'image s'arrête, la peinture commence », correspond aussi au sentiment que j'ai eu, moi, devant vos toiles, souvent, des toiles profondes où se joue, j'ai l'impression, toujours une mise en abîme dans la composition et dans le sens, la composition amenant d'ailleurs souvent un double sens, des tableaux qui vont justement au-delà de l'image visible jusqu'à créer un basculement du regard et entraînant un questionnement de la pensée, une énigme même parfois plutôt séduisante comme des secrets à trouver quelque part et qui nous amène à regarder longtemps, à plusieurs reprises, vos peintures. Alors ici, on est toujours dans votre atelier. Il y a justement un tableau que je trouve assez beau qui représente deux joueurs d'échecs. J'ai ce sentiment devant ce tableau, on plonge le regard dedans, au-delà de l'image, et au-delà de l'image, il y a autre chose.
Un tableau, c'est une expérience d'intimité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit souvent qu'on rentre dans une œuvre. S'il n'y a pas plus intime que ça, c'est-à-dire qu'on est aspiré par l'œuvre. Je pense que l'œuvre fait aussi un chemin vers nous. Une bonne œuvre, pour moi, c'est quelque chose, un peu comme l'amour, peut-être même plus grand d'une certaine manière, dans la mesure où peut-être l'amour peut s'achever parfois. Et voilà, une œuvre, c'est quelque chose qui est paradoxalement en mouvement constant, dans son sens et dans ses possibilités d'énigmes. J'adore ça et je pense que la plupart des artistes jouent avec ça. Comme d'ailleurs, vous faisiez allusion à une grosse partie de la peinture très commerciale aujourd'hui qu'il peut avoir, qui effectivement travaillait souvent techniquement, qui semble très séductrice par les moyens employés. Et dès lors qu'on développe un peu de familiarité ou qu'on s'approche ou qu'on commence à se demander ce qui est à jour, ça tourne un peu à vide, on sent que la machine ne prend pas. Exactement comme ce qu'on dit d'une personne superficielle, d'une certaine manière.
Et vous êtes tombé amoureux d'une œuvre ?
Moi, je suis tombé amoureux de dizaines d'œuvres, bien sûr. Et certaines reviennent en boucle. Ah, celle qui m'occupe depuis un bon moment, depuis quelques années, c'est la crucifixion de Tintoret. Elle s'impose régulièrement par son incroyable audace formelle, par son gigantisme. Elle a chassé dans ma conscience d'autres œuvres qui reviendront plus tard ou peut-être d'autres en reprendront la place.
Et si je reviens quand même rapidement sur vos joueurs d'échecs.
Ah voilà, moi j'ai joué d'échecs.
Ils représentent quoi ?
Ben, ça c'est un tableau qui représente des joueurs d'échecs.
Il y a Méduse aussi.
Oui, il y a Méduse. Il y a une Méduse inversée qui est comme un tableau dans le tableau. Et qui est là. Après, donner mon interprétation n'aura pas beaucoup de sens. Après tout,
qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre une scène de joueurs d'échecs ?
Mais pourtant, Dieu sait si je joue.
Il faut jouer peut-être.
Ouais, en fait, c'est ce tableau-là. Les dernières séries qu'il y a sont des tableaux que je travaille d'une manière différente, c'est-à-dire que je laisse beaucoup plus de part, c'est un peu simple de dire ça, mais je laisse beaucoup plus de part à mon inconscient arriver dans le désir du motif et de la manière dont je l'organise. Ce qui n'était pas le cas avant, où je faisais vraiment des plans d'architecte, où j'essayais d'absolument tout contrôler. Donc là, tout d'un coup, tout simplement, j'ai eu envie de peindre des joueurs d'échecs, en l'occurrence mon fils et un de ses amis, pour essayer de faire une espèce de peinture silencieuse, contemplative, figée. D'ailleurs, c'est littéralement pour ça qu'il y a le... On dit souvent que des joueurs d'échecs sont figés ou que sont concentrés. Et c'est pour ça qu'il y a la méduse, d'une certaine manière, qui manifeste cette pétrification. J'avais envie qu'il y ait cette interrogation sur qu'est-ce qui est en train de se jouer littéralement. Et moi-même, je ne le sais pas. La seule chose que j'ai découvert qu'après, en fait, parce que j'ai choisi une partie d'échecs qui existe et qui est très connue, donc, et qui est arrêté évidemment là, puisque le tableau est immobile. Mais on sait en fait, dans le réel, qui va gagner et quel est le prochain coup. Mais ce que j'aime, c'est que cette partie d'échec là, en l'occurrence, elle ne s'arrêtera jamais.
Et nous, on va arrêter du coup cette conversation. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci beaucoup.
Un tableau de Stéphane Pancréache est exposé actuellement dans la vitrine de la galerie Jean Broly, au 16 rue de Montmorency à Paris, dans un accrochage appelé Passage, réalisé par le peintre Mathieu Cherkit, visible jusqu'au 27 février encore, aux côtés donc d'une peinture de Marion Bataillard, reçue dans le premier épisode de ce podcast. Je vous retrouve donc la prochaine fois pour un numéro 3.